Mobile studio.
Studio mobile, Radio Dua, ici à Pompompom. Continuité de cette Transhumance 2018 sur la place du Mazel avec au micro maintenant Patrice Marie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Patrice, comment vas-tu ?
Eh ben bien, pas de problème. Donc il fait beau. On a attendu le soleil très longtemps dans le Diwa comme ailleurs et il est là depuis une bonne semaine. Ça réjouit un peu les éleveurs et les agriculteurs. Ils vont enfin pouvoir attaquer les foins et les éleveurs monter en montagne, quoi. Voilà.
Donc les brebis sortent du bois, ça c'est le titre de cette transhumance. C'est le cas ?
Oui, oui. Marie Cabrol vient de m'expliquer le slogan. Je ne l'avais pas forcément perçu comme elle. Mais je pense qu'elle a raison. Oui, maintenant, les brebis sortent du bois. Parce que dans les bois, elles y sont pas bien. Parce qu'elles sont poursuivies en permanence. Et les bergers ne voient pas les bêtes féroces, ne voient pas les loups. Donc, on évite d'aller dans les bois, quoi. Voilà. Donc, et sur le débat précédent, où la forêt regagne de partout... Eh ben voilà une conséquence terrible de la forêt qui gagne et les pâturages qui disparaissent quoi et la biodiversité avec.
Est-ce que c'est lié aussi à la disparition du métier de berger aussi puisque il y a de moins en moins de pouvoir là-dessus?
Non, les bergers disparaissent pas, hein.
Non.
Non, les bergers et les éleveurs s'accrochent. Alors bon, il y a un peu sur nos territoires un peu de pessimiste gagnant qui fait que des éleveurs qui subissent ça depuis 15 ou 20 ans en ont marre, donc ils n'envisagent pas de passer la main aux générations suivantes qui en ont pas envie d'ailleurs. Donc mais bon, il y a des bergers qui viennent d'ailleurs et des éleveurs, des jeunes éleveurs qui ont envie de s'installer. Non, l'agriculture est vivante en France. Elle est belle, elle est très belle. Parce que dans nos territoires, on n'est pas dans des territoires de productivisme avec des élevages industriels. On est dans des élevages de plein air. On est dans des élevages qualifiés, agriculture paysanne, agriculture labellisée, agriculture bio, etc. Donc on est dans des beaux paysages que des générations d'éleveurs et de bergers et de paysans en général ont entretenus. Et ça donne ça aujourd'hui, ça donne des beaux paysages. Et des beaux paysages, il y a des promeneurs, des randonneurs, des amoureux de la campagne, de la montagne qui viennent s'y ressourcer et s'oxygéner. Et voilà, on n'a pas de quoi être pessimiste par rapport à ça. Si c'est beau, si c'est bien entretenu, si c'est respirable, c'est vivant. Voilà, donc, et on veut rester vivant.
Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un certain découragement alors de la part de ces bergers et des personnes qui se lancent sur le pastoralisme ?
Le découragement, il est lié... C'est un métier dur, mais voilà, on va pas pleurer, quoi. Hein ? Travailler par tous les temps, la pluie, le brouillard, le vent, le froid, les journées longues... du printemps, là en ce moment le jour se lève à 5h15 le matin et il fait nuit à 9h30 le soir, donc la réalité c'est que avec le problème de prédation, on est tout le temps de la levée du jour à la tombée de la nuit d'être derrière les bêtes, voilà, y compris pendant les heures de chaume où les hordes chaumes, c'est les bêtes où ça repose, il ne faut pas les lâcher parce qu'elles sont, à ce moment-là, elles sont vulnérables. Donc, qui est capable aujourd'hui de se payer des journées de 15 à 18 heures de... personne. Personne. À l'heure des 35 heures. Pensez donc que personne n'a envie de mener une vie pareille. Et encore. Il y a encore des amoureux, il y a encore des gens qui ont envie de faire ce métier. Et puis, de toute façon, le travail de la terre a toujours existé. C'est le plus vieux métier du monde. C'est le métier qui est encore le plus pratiqué sur la planète, parce que 60% de la population mondiale vit encore de l'agriculture, de la terre. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose entre posséder 4000 hectares aux États-Unis et puis quelques dizaines de mètres carrés en Éthiopie ou ailleurs. Mais la terre a toujours été vivante, et que ce qu'on a dans notre assiette sort de toute façon de la terre. Donc il faudra toujours des éleveurs, des bergers, des agriculteurs et des passionnés pour faire ça. Et quel que soit le nombre d'heures dans la semaine, eh ben tant pis. Allez, on oublie les 35 heures à la campagne et on fait avec. Et c'est aussi notre bonheur, quoi.
Après, j'avais une question par rapport à la presse régionale quotidienne. Je ne perçois plus d'attaques mentionnées sur les troupeaux dans le Diwa ou un peu plus loin. Est-ce que ça s'est calmé ou alors il y a plutôt un silence ?
Non, ça ne s'est pas calmé du tout. Que la presse n'en parle plus. Évidemment, la presse, elle a besoin de nouveautés permanentes pour alimenter les chroniques. Mais je peux vous affirmer que en 2017, ça a été 12 000 bêtes tuées en France et autant de disparus. Et qu'en 2018, on a les chiffres de la semaine dernière du fin mai. On est encore en augmentation en 2018 par rapport à 2017 sur les premiers mois de l'année 2018. Et avec un différentiel qui nous laisse supposer que ça va être catastrophique, on a sorti les bêtes cette année très tard, hein, c'est-à-dire que début mai, parce que l'hiver n'en finissait pas. Donc quand les brebis sont en bergerie, ben évidemment, elles sont protégées. Et là, le fait de les mettre tardivement dehors, le bilan fin mai, dans la Drôme, hein, pour ne parler que de ce département-là, mais moi j'ai les deux bilans dans les deux départements, Drôme et Isère, et on est en augmentation par rapport à 2017, donc je vois pas pourquoi en 2018 ce serait plus calme. Voilà. Donc même si la presse en parle plus, c'est toujours on peut le comprendre, hein, toutes les semaines dans le journal local des cadavres de brebis, parler de la prédation, au bout d'un moment les gens se lassent. Et il y a peut-être d'autres actualités ou d'autres événements à relater un peu plus joyeux, quoi. Voilà. Donc, mais la réalité, c'est la même, quoi. Il n'y a pas de diminution. Au contraire, on découvre au fil du temps, c'était ce que je voulais venir parler aujourd'hui, on découvre au fil du temps de ces dernières années déjà moins de pression de la part des défenseurs du loup et de plus en plus d'arguments de notre part, pour démontrer qu'on est dans une gabegie financière épouvantable dans ce pays pour la défense des prédateurs, que ce soit le loup et l'ours dans les Pyrénées, qu'on est dans un scandale d'État, qu'on nous ment comme des arracheurs de dents, et là depuis un an qu'on a ce nouveau gouvernement, là, pour ne citer que Hulot, Travers et Macron. Alors là, je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'ils sont en train de nous emmener dans des mentries qui n'ont pas de sens, quoi. Voilà. Donc, et ça, je veux bien en parler si vous me posez des questions là-dessus. Parce que j'ai quelques arguments pour affirmer tout ça.
Voilà, ce matin, vous avez eu un petit coup de gueule, je dirais, sur le plateau des officiels. On peut peut-être revenir un peu là-dessus.
Si vous voulez.
Donc, en gros, il existe une colère.
Non. La colère, elle est canalisée. Parce qu'elle est maîtrisée. Parce que Moi, personnellement, ça fait 5 ans que je me lève chaque jour pour m'occuper de mes bêtes et que je passe mon temps à me renseigner. J'ai même fait un tour de France l'année dernière pour aller voir ce qui se passait dans les autres territoires, dans les autres massifs, que ce soit des Pyrénées jusqu'aux Vosges, en passant par les Alpes, les Cévennes et ailleurs, pour essayer de comprendre que j'ai rencontré beaucoup d'élus, que beaucoup d'associations d'éleveurs, les syndicats agricoles, pour dire on ne peut pas se laisser abrutir, se laisser faire, parce que vous vous rendez compte que tout cela devient une folie douce. L'année dernière, ça a été 21 millions d'euros de dépensés pour les dégâts auprès de l'agriculture, c'est-à-dire le remboursement des bêtes prédatées, des 12 000 bêtes prédatées, les mesures de protection. On arrive à plus de 4 000 chiens de protection dans les massifs alpins, qui créent d'autres problèmes avec les randonneurs. Bon, l'achat des filets, etc. Donc 21 millions d'euros. Mais ça, c'est la face cachée de... Après tout, 21 millions d'euros, on pourrait dire, c'est pas grand-chose, quoi.
C'est une somme qui concerne quel territoire
Non, non, 21 millions d'euros, c'est l'argent dépensé en France pour rembourser la prédation. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plus de 1000 agents de l'État qui travaillent sur le suivi du loup en France. Il y a des comités loups dans tous les départements. Il y a un comité loup national. Il y a des études scientifiques qui ont été faites et refaites et qui vont être encore refaites. Voilà. On arrive aujourd'hui à un rapport. Ça fait 3 ans qu'on demande un rapport à la Cour des comptes. Et on arrive aujourd'hui à une dépense globale sur le territoire français. Rien que pour le loup, je ne parle pas de l'ours parce que je ne connais pas les chiffres. Mais on arrive à une dépense de plus de 200 millions d'euros en France. Ça va être... Et je ne prends pas de risque à dire ça parce que je sais que la Cour des comptes va aller bien plus loin. Et qu'en 2019, le rapport qui va sortir là-dessus va être supérieur. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, 200 millions d'euros pour protéger, au passage, soi-disant 400 loups, mais le chiffre n'est pas bon, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous annonce officiellement, combien ça fait de millions d'euros par loup. Voilà. Alors qu'on est dans une économie mal en point, dans plein de secteurs, dans la santé... Dans bien d'autres domaines, je vais pas faire un discours politique là-dessus, quoi. Où on supprime des postes dans les hôpitaux, on supprime des postes à l'Association nationale pour la défense de l'handicap, on n'arrive plus à scolariser des enfants qui ont des handicaps dans les écoles parce qu'il n'y a plus d'argent pour financer ces trucs-là, ces événements-là, et alors qu'on dépense sans compter pour la protection d'un animal. Je pense qu'on là, on marche sur la tête, quoi. Voilà. Ça, c'est un. Moi, ça me tient à cœur parce qu'on peut pas laisser, faire ça, quoi. Et puis, sans compter la disparition des éleveurs, sans compter l'abandon des territoires, les dégâts causés sur la nature. Parce qu'on nous dit le prédateur, les loups, c'est vecteur de biodiversité. Mais c'est une imbécilité de première, ça. Ça n'a pas de sens. Ça fait pas partie de la biodiversité. C'est un animal sauvage, certes, qui est pas menacé. Il y en a 20 000 en Europe maintenant, voilà, depuis la protection de la Convention de Berne de 1992. Aujourd'hui, 20 000, ils ne sont pas en disparition. Mais, je veux dire, ce n'est pas les crottes des loups qui vont entretenir, qui vont fertiliser les sols. Ce n'est pas les loups qui vont manger l'herbe qui pousse en montagne et qui empêche la neige de glisser dans les pentes. C'est bien nos brebis. Et c'est la fonction première de nos animaux, c'est d'abord d'apporter de la matière azotée au sol. Avant de devenir des animaux qu'on consomme ou qui font du fromage. C'est d'abord de produire de la matière organique. Les loups ne produisent pas de la matière organique. Voilà. La beauté des territoires, des alpages, des prairies, c'est la matière organique des animaux. Donc les loups dans les forêts où il n'y a plus personne qui rentre, comme l'expliquait M. Aubanel tout à l'heure, ils sont forcément chez eux. Mais avant la déprise de ces territoires, on était chez nous. Voilà. Donc... Le loup n'est pas des vecteurs de biodiversité, loin de là, ça faut absolument enlever ça des discours. La biodiversité, c'est l'agriculture extensive, comme on la pratique ici, qui fait que ces territoires sont magnifiques. Et puis c'est des générations C'est pas nous, c'est pas que nous aujourd'hui qui sommes là, qui l'avons fait, mais c'est des siècles, c'est des générations d'éleveurs et d'agriculteurs sur ces territoires qui ont façonné ça, et sans les loups. Voilà.
Mis à part le problème du loup, il y a aussi la forestation envahissante qui chapote sur des terrains de pâturage. C'est le cas que vous rencontrez aussi.
Le développement de la forêt, vous voulez dire?
Oui.
Ben oui, ils vous l'ont expliqué là, sur la dernière.
Oui, mais très bien. Je voudrais avoir votre point de vue comme berger aussi.
Ils l'ont très bien expliqué. Effectivement, des territoires qui sont abandonnés. Moi, je connais ce territoire depuis 40 ans. Je peux vous citer plein de collines ici. Où il y a 40 ans en arrière, il n'y avait pas un arbre, où il y avait quelques arbres. Voilà. Mais dessous, c'était des prairies, où les animaux allaient. Maintenant, le retrait de l'agriculture, parce que même si je veux rester optimiste, je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a de plus en plus de gens qui arrêtent cette agriculture, et notamment à cause du loup. Mais de toute façon, il se passera quelque chose. La nature a horreur du vide, et ce n'est pas le loup qui refera la nature. Donc de toute façon, il se passera quelque chose. C'est pour ça que je reste optimiste. Donc évidemment, la forêt, elle regagne. Et si on... le slogan, c'est les loups sortent du... les brebis sortent du bois, c'est qu'effectivement, on ne veut plus y aller dans les bois. On ne veut plus y aller, on ne maîtrise rien. Voilà. Donc on ne voit pas ce qui se passe. Et comme les attaques ont lieu en plein jour, donc la jeune génération de bergers aujourd'hui, qui n'ont pas le vécu de l'histoire du loup, eh ben, ils ont tendance à aller sur les territoires découverts pour essayer au moins de voir ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, et puis maintenant, on nous a accordé des tirs de défense pour protéger nos troupeaux. Qu'est-ce qu'on peut aller tirer dans un bois sans visibilité ? Ce serait complètement imbécile d'avoir une arme dans les forêts pour essayer, dès qu'on voit quelque chose de bouger, de planter un coup de fusil, quoi. Personne n'a envie de faire ça, quoi. Voilà. Donc, effectivement, la forêt, elle a de beaux jours devant elle, parce qu'on n'a plus envie d'y aller, ou alors il faudra qu'on nous donne les moyens pour y aller, quoi. Voilà.
Patrice Marie, vous êtes aussi poète, conteur.
Oui, mais bon.
Et encore de la place pour ça, dans votre vie ?
Oui, je suis en train de préparer un second ouvrage. Voilà. Donc, je ne vais rien promettre parce que je suis un peu paresseux à l'écriture. Donc, mais ça va venir, quoi. J'ai envie de réécrire. Je l'ai déjà dit, j'y suis. Je vais réécrire la lettre de Jean Giono de 1948 qui s'appelait La lettre aux paysans. Parce que ce que je dis là, mon cri du cœur pour la paysannerie, Giono en avait parlé avant la guerre de 39-45. Moi, j'ai envie de m'adresser à la population paysanne de France et puis à leurs détracteurs. On aura toujours besoin des paysans pour nourrir la planète. Voilà. Le jour où la bouffe viendra des laboratoires et des usines à bouffe, le monde y sera bien triste. Voilà. Donc, la terre a besoin de produire, d'être nourrie, et pour ça, elle a besoin de femmes et d'hommes capables de le faire. Voilà. Pour que le monde reste magnifique.
Une question un peu plus poussée là-dessus. La poésie, de manière noble, faisait partie du pouvoir, fut un temps, n'y est plus aujourd'hui. Est-ce que c'était un regret d'une certaine clairvoyance sur la société humaine qui a disparu ?
Non. Il y a eu des grands poètes, il y a eu des grands auteurs, mais demain, il y en aura peut-être d'autres. Mais aujourd'hui aussi, il y en a. La poésie reste contemporaine. Moi, là, je ne suis certainement pas un grand poète, bien loin de là, mais ce que j'admire au quotidien quand je suis dans mes montagnes, ça m'inspire. Voilà, ça m'apaise et ça me donne envie de décrire ce que j'ai sous les yeux, ce que je vois, ce que je ressens. Et tant que la nature restera belle et vivante, je crois qu'elle inspirera toujours des femmes et des hommes. Donc la poésie, non, la poésie n'a pas plus disparu que le reste, quoi. Voilà.
Auprès du pouvoir, hein, je précisais dans ma question.
Auprès du pouvoir, oui. Ben ouais, on n'a pas des poètes au pouvoir. Hein. Ça c'est. Et là, j'ai fait une allusion tout à l'heure, mais là on a atteint son comble. On a atteint son comble là. On a affaire à des gens hors sol, hors catégorie, quoi. Voilà, qui ne comprennent rien à l'agriculture, quoi. Voilà. Donc, et ça c'est vraiment regrettable, quoi. Voilà, parce que le jour où on n'écoutera plus la parole des paysans en France, eh ben, on n'écoutera plus la beauté des paysages, on n'écoutera plus ce qu'il y a dans notre assiette, et ce qui veut dire que, voilà, tiens, tout à l'heure, je pensais à ça, quand M. Aubanel, il parlait de la taxe carbone, des magnifiques forêts, quoi. Il faut savoir que derrière l'organisation, derrière la présence du loup, il y a toute une il y a des énormes usines à gaz qui s'appellent l'Union internationale de la conservation de la nature. Voilà. ces gens-là, c'est les plus grandes multinationales polluantes de la planète qui sont derrière, quoi. Qui financent toute notre brave association environnementaliste, France Nature Environnement, Ferrus et compagnie. Voilà. Et que derrière ces gens-là, ils sont l'Union internationale de conservation de la nature, les multinationales qui sont derrière, ils n'ont qu'une envie, c'est de créer, c'est de faire de la finance sur ce qu'on va appeler à l'avenir, qu'on appelle déjà d'ailleurs, les zones de compensation écologique de la taxe carbone. Et c'est quoi les zones de compensation écologique? Elles sont sous nos yeux, elles sont là. Voilà, ces forêts à l'étendue, ces magnifiques territoires, tout ça, c'est de la taxe carbone qui vaudra de l'argent sur les marchés financiers, quoi. Une industrie qui veut s'installer dans un endroit, maintenant, il faut qu'il achète de la taxe carbone. Donc ces territoires, ils vont prendre une valeur financière monumentale. Mais alors, pour que ça prenne de la valeur, il faudra pas qu'ils soient emmerdés avec des éleveurs et des bergers sur ces territoires. Hein. Il faudra que ces territoires, ça soit zone libre. Voilà. Et en plus, si c'est rempli de faune sauvage, d'ours et de loups, putain, ça vaudra encore plus cher. Alors, voilà. Donc, on fera encore plus de business. Donc, voilà. Derrière tout ça, non seulement ça coûte 200 millions d'euros à l'État pour ces beaux animaux, mais ça va aussi détruire toute une vie culturelle, sociale, qui existe depuis des millénaires, des millénaires. Et ici, on sait ce que l'on doit à la paysannerie au moment de la résistance de la dernière guerre. Il y a des monuments partout qui parlent de ça. Donc c'est toute une vie sociale, c'est toute une vie culturelle qu'on veut détruire au nom du sacro-saint business international pour la conservation de la nature. Donc vous comprenez que quand on a étudié tout ça, parce que je raconte pas n'importe quoi, que demain, au Mont-Lozère, on va créer une fédération nationale pour la défense du pastoralisme. Et la grande surprise, j'ai la dent dure par rapport aux élus actuels, mais on voit venir à nos côtés, on a déjà 1000 signatures d'élus de France, des parlementaires, des maires, on va les faire bouger les lignes. On va se faire entendre, non, la vie dans les campagnes n'est pas en train de mourir à petit feu. Elle est en difficulté, mais on s'accrochera dur et ferme pour dénoncer tout ça et continuer à préserver ce que nos aïeux ont préservé aussi.
Patrice, je reviens sur la nature. Donc, la problématique des abeilles, est-ce que ça a une réelle conséquence sur les territoires sur lesquels vous travaillez, sur les prairies que vous travaillez?
La problématique des
abeilles.
Ben oui.
Alors,
oui.
Comment vous le voyez, ça, concrètement, sur les prairies?
Alors là, je vais être très prudent. Oui. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je connais très mal.
Mais je parle de ce que vous voyez, vous, en tant que berger.
Ben oui, à partir du moment où... nous, en montagne, des abeilles, on en a encore. On les voit butiner sous nos yeux, quoi. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'abeilles. Bon, donc, les conséquences de la disparition des abeilles, bon, j'ai pas trop envie d'en parler, mais tout le monde le connaît, c'est les herbicides, c'est les pesticides, c'est... Donc, nous, on n'est pas concernés par ça, hein. Nous, c'est pas la merde de la fiente de mouton qui tue les abeilles, hein. Mais on en voit moins, déjà parce qu'il y a moins de diversité. Avant, Aubanel, il expliquait ça tout à l'heure, il y avait des champs de lavande et de lavandin, perte de vue, bien évidemment, elles venaient butiner. À partir du moment où on perd en biodiversité végétale et animale, eh ben on perd en nourriture pour les abeilles. Et pourtant, l'abeille, c'est le vecteur principal de la pollinisation, quoi. Voilà. Mais bon, j'en dis pas plus parce que je connais mal le sujet.
Eh bien, Patrice Marie, merci de nous avoir donné un peu de temps. Et puis, bonne fin de journée à cette transhumance.
Merci à tous.
Au revoir.
Merci.